Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quels sont les signes qui montrent que vous avez rencontré la femme ou l'homme de votre vie ? La reconnaissance de l'autre, la familiarité, la fluidité, la simplicité, les échanges, le regard, l'envie d'être ensemble tout le temps. Et aussi le ventre, les papillons dans le ventre, comme un coup de poing. Ce qu'a vécu Brigitte, c'est tout ça en même temps. Et tellement plus encore.
Alors, nous sommes dans les années 90. À l'époque, je suis scénariste pour la télé et particulièrement sur une série de procès pour TF1. On voulait déjà faire un téléfilm avec trois femmes. Et j'avais déjà une brune, plus ou moins une blonde, et on cherchait une rousse. Donc, on arrive dans une agence à Paris, avenue Victor Hugo. Et je vois donc la personne qui est responsable dans cette agence. Et je lui dis, écoute Gilles, moi j'ai besoin d'avoir une comédienne rousse. Et il se marre, il m'ouvre une porte et il y avait justement une comédienne rousse et une comédienne blonde. Je me retrouvais donc enfin avec ma brune, ma blonde et ma rousse. Et il me dit, mais de toute façon t'es pas venue pour ça. Et je lui dis, bah si absolument je suis venue pour ça. Et il me dit, non absolument pas parce que dans la pièce d'à côté il y a Gérard Blanc. Il me dit, ne me dis pas que t'en as rien à foutre. Je lui dis, bah si, absolument, j'en ai rien à foutre. De toute façon, moi, tu sais, les chanteurs des années 80, je m'en moque un peu, je suis vraiment dans autre chose. Moi, j'aime la musique anglo-saxonne, la pop, maintenant Prince. Enfin bon, tu vois, c'est pas du tout ma cam. Je ne suis pas du tout célibataire à l'époque. Je vis avec une personne d'une autre époque qui s'est trompée de siècle. C'est un ours, il vit tout seul, mais il est extrêmement doué. Et il a fait des choses formidables en graphisme et en dessin. Il fait énormément de musique aussi, mais il est complètement asocial. Il sort pas, il aime pas notre époque. Enfin bon, donc beaucoup de gens pensent effectivement que je suis seule, voire même que je suis homosexuelle. Donc, Gilles insiste et me dit, toi qui viens du théâtre, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas aimé l'époque de Martin Circus. Et je lui dis, mais j'ai adoré les Martin Circus. C'était 5 artistes. Je vais même pas dire 5 musiciens, c'était des artistes. Ils étaient tous extraordinairement doués, avec une âme de créateur. Et je pense aussi que c'est ce qui a permis à ce groupe d'avoir été reconnu absolument dans toutes les niches, aussi bien justement dans la variette, Je m'éclate au Sénégal, Marilyn, que dans la pop, où ils ont fait Disco Circus, que dans le rock, parce qu'ils sont aussi allés là-dedans. Ils adoraient se costumer sur scène, ils adoraient révolutionner tout ce qui était gris, parce qu'en fait, ils arrivaient des années 60, puisqu'ils ont commencé en 69, et tout était gris à l'époque. On était à l'époque du général de Gaulle, on était juste avant toutes les révolutions d'après 68, avant le Flower Power, et ils ont voulu vraiment en jouer beaucoup, mais en même temps, ils étaient déjà révolutionnaires dans leur tête, et c'est pour ça qu'ils se permettaient justement d'arriver sur scène en toge, avec des masques, et qu'ils faisaient des choses un petit peu, on va dire, ahurissantes. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait même pas faire ce qu'ils ont fait sur scène, tellement c'était révolutionnaire. Donc finalement, je lui dis, ok, présente-moi Gérard. Pour moi, Gérard, c'était un de ces artistes, on va dire, j'ai presque envie de dire romantique, Mais c'est vrai que je reconnaissais, puisque depuis Martin Circus, quand même, je le connaissais en tant que leader et chanteur du groupe, comme un personnage qui avait une voix extraordinaire. Étant extrêmement sensible à tout ce qui est sens, la voix avait énormément d'impact pour moi, et je me suis dit, bon, allons-y, même dans la façon où il va me dire bonjour, je vais peut-être reconnaître le chanteur que je peux, non pas admirer, parce que je suis pas du genre à être fan, mais que je peux trouver vraiment sublime dans sa façon d'interpréter les mots. J'y ouvre la porte, je me trouve face à une bande de gens très connus, allant du coureur de F1 au patineur, au chanteur. Il n'y avait pas que Gérard comme chanteur. On se regarde et c'est pas du tout un coup de foudre qui se passe. Et il se passe cette chose entre Gérard et moi où on se regarde comme si on s'était toujours connus. Et immédiatement, on sait qu'on a en commun quelque chose de très fort et que ce n'est pas la rencontre d'un moment comme on a dans notre métier, où on se tutoie tous, on s'embrasse tous, on s'aime, parce que c'est vrai aussi qu'on peut s'aimer même une soirée, mais on ne va plus se voir. Là, on sait qu'on ne va plus se quitter, c'est très différent. C'est immédiat et Gérard me dit « Ce soir, tu viens à la maison. » On se dit rien, on se regarde. Et moi, j'accepte immédiatement cette invitation, d'abord parce que je suis une femme libre et que à partir du moment où mes rendez-vous de travail m'entraînent dans une autre histoire, comme par hasard, c'est le cas de le dire. J'y vais parce que je suis de toute façon, on le dit toujours, les vrais scénaristes, on est des vampires. C'est-à-dire que chaque chose qui se passe, on s'en abreuve. On s'en abreuve pour nourrir nos personnages, pour nourrir nos fictions. Et moi, je me dis, je vais dans cet endroit pour trouver mes comédiennes. On me propose, et c'est très intense, de venir à la maison. Je vais y aller. Je vais y aller parce que j'ai des choses à découvrir, avec lesquelles je vais me nourrir. Et j'y vais. On passe une soirée incroyable et il se passe exactement ce qu'on avait ressenti tous les deux. C'est-à-dire qu'on est en accord constant. Il me parle de choses, il me parle de beaucoup de Martin Circus parce que c'est sa famille, c'est sa construction. Et... il me raconte des choses des années 70 et malgré nos 10 ans d'écart, je les ai vécues à ma façon, avec ma compagnie. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais une compagnie de marionnettes et j'étais sur les routes. Et on marchait extrêmement fort. On avait gagné le prix à Charleville-Mézières de la meilleure compagnie de marionnettes. Donc, on était sur les routes 200 jours par an. Et Gérard avec Martin Circus aussi. Et on se racontait, en fait... étonnamment les mêmes histoires. Et c'est là qu'on s'est franchement dit qu'on avait déjà autrement, mais de la même façon, vécu la même histoire. Et donc ça a duré, j'ai dû partir, il devait être 5 heures du matin. Je suis totalement nourrie, je suis nourrie, il est nourri, on sait qu'on ne s'est pas quitté. On sait que de toute façon, si ce n'est pas le jour même, dans l'après-midi ou le soir, on sait qu'on va continuer à se voir, on sait qu'on va continuer à partager, non plus peut-être toutes ces histoires du passé, mais ce présent. Comme prévu, le lendemain, on décide de dîner ensemble. Donc, il m'appelle et il me dit, parce qu'à l'époque, lui aussi, donc, il a une famille, il a une compagne et un enfant. Il me dit, on va aller au restaurant pas loin de chez nous. Est-ce que vous voulez pas venir manger avec ton mec ? Et le miracle se passe, mon compagnon qui ne sortait jamais accepte et nous voilà donc tous les quatre au restaurant. Et mon compagnon de l'époque et Gérard se parlent musique, mais il parle énormément à la compagne de Gérard. Et Gérard et moi, en fait, on commence à n'échanger qu'entre nous, à ne plus voir ce qui se passe dans le restaurant, à ne plus voir autour les autres. Et pareillement que la veille, on parle pendant des heures de plein de choses, de nos rêves. Et je pense que déjà, on est en parfaite harmonie pour rentrer en communauté, pour faire exister nos rêves. C'est une chose très très forte. Je ne sais même pas si les gens peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Soutenir quelqu'un dans ses rêves, c'est une chose. Là, on rentre dans une osmose où on sait qu'on va pas soutenir, mais partager le rêve de l'autre et le faire exister avec lui. Et on commence déjà donc à parler de réalisation. Et très étrangement, ce n'est pas la réalisation de mon téléfilm. Très étrangement, ce n'est pas la réalisation de son futur album alors qu'il était en plein dedans. C'est déjà, on se projette sur un éventuel projet musical et écrit un musical qu'on pourrait rêver ensemble. L'important de notre relation avec Gérard, c'est que, comme je l'ai dit, on n'a jamais été dans un coup de foudre. On a été deux âmes sœurs qui se sont retrouvées, donc on avance ensemble. Donc là, on se parle d'un projet, on pourrait dire oui, professionnel, mais ça aurait pu être aussi un projet du quotidien. C'est-à-dire qu'on savait déjà que ça allait nourrir notre quotidien et faire qu'on allait se voir et être ensemble pour écrire des chansons, pour réaliser quelque chose ensemble. Mais jamais à cet instant, de toute façon, on était déjà en train de se dire qu'on quittait l'autre avec qui on était. C'est pas du tout notre propos. On était ailleurs. C'est très important de comprendre ça. Quand on est attiré par quelqu'un, qu'on pourra appeler un amant, une maîtresse, il est évident qu'on joue un jeu dangereux dans le sens où on ne sait jamais si cette rencontre va nous faire quitter celui ou celle avec qui on est. Là, nous ne sommes pas du tout là-dedans. On s'est retrouvés, c'est-à-dire qu'on a retrouvé notre moitié qui nous manquait. Je sais qu'on a une époque où il ne faut pas genrer, mais ma moitié féminine manquait mon masculin et sa moitié masculine manquait de féminin. Et on s'est retrouvés là-dedans. Et donc, on n'était pas du tout en train de penser à une histoire d'amour. Donc on repart de ce restaurant. Je suis très étonnée parce que mon compagnon de l'époque est très heureux de cette soirée et me dit « c'est incroyable, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé un grand frère ». Et là je me dis « c'est quand même fou quoi, moi j'ai mon âme sœur, on est comme deux jumeaux, mon homme qui ne sort jamais me dit « j'ai un grand frère ». Et c'est ce qui va se passer dans tous les mois qui vont suivre. Il va être avec Gérard comme s'il était avec son grand frère. Donc, nous commençons à faire tout ensemble. C'est-à-dire que nous partons en vacances ensemble, tous les quatre. Enfin, à plus, parce que nous sommes une grande communauté. N'oublions pas que nous sommes tous avec l'esprit des années 70, Flower Power. Donc, on part avec nos potes, nos ex... nos présents, nos futurs en fait, et ça on le savait pas encore, des gens du spectacle, des gens du métier, donc on loue des grandes baraques, on part tous ensemble, mon compagnon de l'époque et Gérard font de la musique, des nuits entières, Moi, je m'amuse avec eux à écrire des textes, on se laisse aller totalement, on se marre tout le temps, mais il s'avère quand même que toutes les fins de soirée, on les passe, Gérard et moi, au bord de la piscine. On commence à se parler des lendemains, de ce qui va se passer. Lui, il me dit qu'il va être en studio, qu'en fait, il adorerait qu'on soit là souvent. Plein de choses commencent à faire qu'on se rapproche, mais sur tous les points, quoi. Même sur notre passé, on se marre comme des malades. Et la promo commence, la promo de cet album. Et là, c'est sa compagne qui nous regarde et qui fait « Mais de toute façon, vous ne vous quittez jamais. » Et je pense, Gérard, qu'il faut que ce soit avec Brigitte que tu partes faire la promo en province de ton album. Nouveau départ. Gérard m'appelle et il me dit « Brigitte, est-ce que tu as le temps de venir avec moi sur les routes, dans les boîtes de nuit, pour lancer mes nouveaux titres ?» Je lui dis « Écoute, ouais, ça m'éclate parce qu'aujourd'hui, je suis devenue scénariste, comme tu le sais, mais le spectacle vivant me manque beaucoup. » Et nous voilà partis et on fait des centaines de kilomètres. Il a envie, comme on conduit tous les deux, qu'on partage la route. Parce que sur la route, quand on est particulièrement de nuit, il se passe quelque chose, et ça m'est arrivé avec tous les artistes que j'ai accompagnés de nuit. Tout d'un coup, on est dans un autre monde. On est dans une autre réalité. Et là, on commence à se raconter notre vie. On a des fous rires. En même temps, on a des larmes aux yeux qui nous viennent. Je me rappelle très bien, au début, c'est Gérard qui conduisait, mais il est gaucher. Et donc, sa main vers la place passager était sa main droite. Et bon, il est guitariste, donc il sait servir de sa main droite. Mais quand il me prenait par le bras ou qu'il posait sa main sur ma cuisse parce qu'on s'était dit une chose tellement commune que ça le bouleversait, je sentais que quelque chose passait entre nous, un courant. Et très vite, il m'a dit « Brigitte, tu vas conduire ». Et j'ai compris cette demande parce que d'un coup, dans sa place de passager, c'est sa main gauche qui se posait sur moi. Et cette main gauche, quand elle se posait sur moi, que ça soit sur mon bras, sur ma cuisse, sur mon ventre, c'était incroyable. Quand j'ai perdu ma maman, j'ai eu une force terrible qui m'a traversé le ventre. Quand je suis remontée dans ma voiture, que je l'ai laissée dans cet hôpital où elle était décédée, qu'il a fallu que je parte écrire, parce que j'écrivais donc pour TF1 à l'époque, à la production, j'ai reçu un coup de poignard dans le ventre. Ça m'a traversé la colonne vertébrale. Quand Gérard, la première fois, s'est mis dans la place passager et qu'il a posé sa main sur mon ventre, j'ai exactement ressenti la même chose. C'est là que je me suis dit que définitivement, cette croyance qui fait qu'on ne naît jamais seul et qu'on est comme deux jumeaux, deux âmes sœurs, elle s'est ancrée, mais au plus profond de moi. Et là, je me suis arrêtée sur le bord de la route et on ne s'est plus rien dit sur le bord de la route. Tous les deux, on s'est regardés en sachant qu'on s'était trouvés. Mais là, quel est le sentiment qui nous habite? Je ne sais même plus, parce qu'il n'était pas question que j'abandonne mon mec. Il n'était pas question qu'il abandonne sa compagne et le petit enfant qu'il venait d'avoir. Donc on est là, paumé au bord de la route dans la nuit en revenant d'une discothèque où on vient de faire la foire, quoi. On est le jouet d'une force supérieure qui nous a mises là sur cette terre. On n'a pas toutes les armes et on n'a pas envie surtout d'aller contre ça. Ni lui, ni moi. On a envie. Alors comment on va faire? Comment on va faire pour continuer à vivre ça en étant tous les deux en couple? Qu'on a commencé donc à faire aussi des soirées, puisqu'il avait la promo de son album, que moi j'avais fait beaucoup de scénarios pour TF1, donc on était souvent invités aux mêmes soirées. Et c'est sa propre compagne qui, quand elle voyait nos noms, c'est-à-dire son nom à elle et le nom de Gérard en face, et mon nom, par exemple, à 4 ou 5 places plus loin, mon nom seul, hein, puisque comme je vous ai dit, beaucoup de gens pensaient que j'étais homosexuelle et que je sortais toujours toute seule et que mon compagnon ne sortait pas dans ses soirées. C'est elle-même qui déplaçait les papiers et elle mettait mon nom en face de Gérard. Et un jour, quelqu'un lui a dit « Pourquoi tu fais ça ?» Et elle a dit « Parce que de toute façon, ils n'en ont rien à foutre. Ils vont parler toute la soirée, à travers la table, comme si on n'existait pas. Parce que quand ils sont ensemble, ils ont une force incroyable et il n'y a plus qu'eux qui existent. » Mais ce n'était pas négatif ce qu'elle disait. Elle ne nous en voulait pas. Elle le vivait quand on était ensemble chez eux. Elle le vivait quand on était en vacances ensemble. Ça n'entrait pas de l'autre côté de la porte de leur chambre. Mais dans le quotidien, elle en était très consciente et donc elle savait, et c'est vrai que ça nous est arrivé à des soirées où tout d'un coup, un mot faisait qu'on se regardait à travers la table et qu'on n'en avait plus rien à faire. Même d'être devant un animateur très connu de télé, un photographe, un artiste très connu, un chanteur, on s'en moquait, quoi. On traversait de notre regard la table et on se parlait. On se parlait comme si plus personne autour n'existait, quoi. Donc, elle avait mis ça en place. Et petit à petit, dans les soirées, les gens commençaient à nous mettre tout le temps à la même table. Donc, on commençait à avoir une vie ensemble. Une vie même médiatisée. On commençait à faire des photos ensemble. Bien avant que la vie que nos compagnons fassent, qui nous quittent. Le couple allait très bien, mais je pense que les deux voyaient à quel point on se nourrissait, à quel point, dès qu'on était ensemble, quelque chose de magique fonctionnait, à quel point nous étions attirés, comme deux aimants, comme je l'ai dit, l'un vers l'autre. Ils nous l'ont dit plus tard, les deux sont partis avec quelqu'un. Quelqu'un comme on rencontre, je pense, parce qu'à un moment, on a besoin peut-être de se dire que si votre moitié a une histoire aussi riche ailleurs, est-ce que nous aussi, on ne peut pas essayer d'en trouver une ailleurs? Et ils sont partis, ils nous ont laissés. Et c'est évident qu'à ce moment-là, eh bien, tous les soirs, Gérard arrivait chez moi, il faisait le tour, il sortait, il allait en boîte. Il allait même voir sa première épouse, qui n'était pas très loin de chez moi. Et puis, il repassait par chez moi pour finir sa soirée. Il me disait, t'es sûr que tu veux rester dans cet appart? Et je lui disais, ouais, je suis bien seul. Je suis tellement bien seul. Et ça a duré plusieurs mois où on continuait à se voir de toute façon. Puisqu'on partait ensemble pour sa promo, on commençait à écrire ce fameux musical. Je lui commençais à lui présenter mes co-auteurs. On a commencé à louer des studios, on a commencé à enregistrer. C'était un très beau musical sur François Villon. On se voyait tout le temps, on était sur la route ensemble et tout. Et un jour, on est parti donc dans la maison de campagne qu'il avait depuis 3-4 ans, dans une clairière, avec des forces énormes, telluriques, j'ai envie de dire. Il m'a serré dans ses bras. C'est un soir de pleine lune. Et il m'embrassait. J'ai rien dit, hein, je me suis laissé faire, comme il dira plus tard. Comme il m'a dit, tu t'es pas tellement défendu. Non, je ne me suis pas défendu. Mais je l'ai regardé et j'étais pas très bien parce que moi je voulais pas casser ce qu'on avait. Ce qu'on avait, c'était très fort. C'était comme un frère, plus fort qu'un ami, plus qu'un frère, comme un jumeau, plus qu'un jumeau, comme une âme sœur. D'un coup, il était plus seul, j'étais plus seul. Et je voulais pas que ça se perde. Et je lui dis, mais Gérard, je te rappelle que t'es chanteur. Que t'es entouré tout le temps de plein de nanas qui aimeraient tellement passer même une nuit dans tes bras. Si un jour tu tombes sur une autre, il m'a regardé un peu comme si je lui disais une grosse, grosse, grosse bêtise. Et on est rentré, parce qu'on était obligé de rentrer pour travailler, Et il m'a dit, on va jouer à un jeu. Je pose des questions, tu réponds, tu me poses des questions, tu réponds. Et on a commencé à poser des questions idiotes. Hein. Qu'est-ce que tu aimes dans la peau de quelqu'un? Qu'est-ce que tu aimes dans l'odeur? Qu'est-ce que tu aimes? Et petit à petit, au lieu de répondre l'un après l'autre, on répondait en même temps. Et on répondait exactement, mot pour mot, la même chose. On arrive à Paris, donc au bout de 2 heures, il m'a regardé, il m'a dit « Bah alors, t'as peur de quoi? Comment veux-tu qu'on se quitte ?» Et je lui ai dit « On prend un énorme risque, mais ok, je le fais. » J'ai mis longtemps, hein, que je le fais, j'ai mis bien 2 mois, où ça l'a totalement énervé, où il est venu me chercher. Et puis un soir, ça c'est la petite anecdote, j'ai sonné et je suis arrivée avec ma caisse à outils. Et là, il m'a pris dans ses bras, il en a pleuré. Et il m'a dit, cette fois-ci, je sais que t'es là, t'es la femme qui répare tout. Et c'est là que j'ai compris que lui aussi, il était très clair pour lui que j'étais son âme sœur et qu'il avait besoin de moi pour vivre. Et moi, je m'en étais pas encore rendu compte. Est-ce les 10 ans d'écart? Je ne sais pas. Mais je me suis rendu compte aussi que d'un coup, tout était simple. On se lève à la même heure, on mange à la même heure, on a envie de se balader à la même heure, on a envie de prendre un bain à la même heure, on a envie de lire à la même heure, on a envie d'aller au cinéma, on a envie... Et jamais, jamais, il y en a un qui dit non à l'autre, quoi. Et on n'a même plus à se le dire, c'est-à-dire qu'on se regarde et il se marre et il prend son manteau et il sait déjà que j'ai envie d'aller me balader dans le froid, dans le parc. Je suis en train de travailler en haut parce que je suis dans une mezzanine, lui il est au sous-sol dans son studio. Je descends l'escalier de ma mezzanine, il monte les escaliers de son studio et on arrive en même temps à la barrière et on se regarde et on éclate de rire, quoi. Parce qu'on sait qu'au même temps, on avait envie de prendre un thé. Et toute notre vie, c'est ça. Tout partager, jamais s'engueuler. Toujours avoir envie de la même chose. Et ne jamais, jamais, jamais s'ennuyer, quoi. Ah, mais il n'y a pas de surprise. Ben si, alors là, je peux vous dire qu'il y en a des surprises, quoi. On n'arrête pas de se faire des surprises. Ça peut être à tous les niveaux. J'arrive, j'ouvre la porte, tout le loft est rempli de pétales de roses. Il m'a fait un sublime accueil. Pourquoi? Parce que le jour de la Saint-Valentin, la première, hein, où il m'a fêté à Saint-Valentin, j'ai regardé avec un tel mépris en lui disant « Ah ouais, tu m'aimes qu'une journée par an, ben moi c'est tous les jours. » Que ça lui a foutu un coup de poignard au cœur et qu'après, ben, ça n'a pas arrêté, quoi. Pour me prouver ça en se disant « Elle est tellement folle, ma pauvre femme, que voilà, je vais faire des choses extraordinaires. » Et tout le monde dans le métier nous reçoit. C'est drôle parce que les tourneurs disent même plus « Est-ce que Gérard est libre le temps pour venir chanter ?» Ils me disent « Brigitte, est-ce que t'es libre ?» Parce qu'ils savent, quoi. De toute façon, ils savent cette union magique. Et comme on est tout le temps ensemble, partout, sur toutes les dates, ils me demandent « On n'a plus qu'un téléphone. » Après tout, à quoi ça sert d'avoir 2 téléphones, puisqu'on est tout le temps ensemble. Et il veut absolument qu'on se marie. Depuis le début, de toute façon, il dit « Tu es ma femme. » Je dis, ben oui, oui, Gérard, tu es mon homme, je suis ta femme. Il me dit, non, non, je veux que tu sois ma femme. Je veux dire, Brigitte Schiavi Blanc. Je dis, mais tu sais bien que je n'ai pas d'enfant, tu sais bien que je ne suis pas mariée. Je veux pas, je suis une vraie fille des années 70, pas d'enfant, pas de mariage, liberté. Et il me dit... tu seras obligé de me dire oui. Et il a besoin, pour des raisons que je ne suppute pas du tout, de plus être avec moi 2-3 fois, C'est-à-dire qu'il part 2 heures en lui disant « je reviens ». Puis je me dis « bon, ça va être encore ses idées débiles. Je vais arriver, il va y avoir un mur de je ne sais quoi. Au plafond, il va avoir mis un aquarium pour me dire « regarde, je suis encore plus fou que toi ». Et pas du tout. En fait, il nous l'a joué romantique, exactement comme je pensais qu'il était la première fois que je l'ai vu dans cette agence de presse. Il est allé demander ma main à mon père. Après, il est allé voir un notaire, et voilà où il était disparu, ces fameux jours où je ne savais pas où il était. Et il est arrivé, et il s'est jeté à mes genoux, avec des bouquets au nom de la rose, et il m'a dit « tu ne peux plus me dire non ». Ton père m'a dit oui. Un instant, je l'ai maudit. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je lui ai juste dit, écoute, je veux pas d'un mariage. Voilà, t'es un chanteur connu. Je veux pas de trucs comme ça. Il m'a dit, mais non, on ira dans notre forêt. On s'est embrassé pour la première fois. On se mariera là-bas, en petit comité, sans chichi, sans rien, pour lui faire plaisir. Et parce que je trouvais ça... aussi symbolique, je me suis fait faire une coiffure africaine par une Sénégalaise. J'ai porté une robe de mariée qui s'appelait la coupe Sénégal. Et je lui ai offert comme cadeau ces musiciens de l'époque. Je les ai fait venir de Toulon et on a passé une nuit magique avec sa famille de son côté, très petite, et la famille de mon côté. Et on a chanté, on a dansé toute la nuit avec ces musiciens et c'était totalement magique dans le bois, en Sologne. Mais en fait, ça n'a rien changé à part que lui, il était super fier d'avoir sa femme. Et je peux vous dire qu'il m'a broyé plus d'une fois avec sa main gauche pour être sûr que je sois là. Même la nuit, c'était incroyable. Je me réveillais tellement, il me serrait fort, quoi, pour être sûr que plus jamais je partirais. Il est content, on est mariés, on continue les concerts, les tournées, on se bat toujours pour notre musical Villon, sauf que ça coûte beaucoup trop cher. On commence à budgétiser, il faut des millions, il faudrait qu'on ait une grosse prod. Et on se dit, c'est pas grave, on le fera un jour. Et là, il commence à être pas très bien, mais bon. Comme il vivait à 100 à l'heure, de toute façon, ça change rien, on continue à avoir plein de projets. Et il me dit, j'ai un rêve, je voudrais que tu montes parfois sur scène avec moi. Comme moi, j'ai une voix extrêmement aiguë si j'ai envie, et toi que t'as une voix très très basse, qu'on se marre, qu'on fasse des duos où tu tiens le rôle de la voix basse. Tu joues des notes au piano, et moi je me mets à la guitare, et voilà, je chante au centre de la scène. Et on commence à se lancer dans ce projet complètement dingue. Et puis, il est quand même toujours affaibli, mais il tire sur la corde. Il ne sait pas se reposer, je ne sais pas me reposer de toute façon. Et on a la vie chevillée, on a l'énergie chevillée, on a tellement envie de faire des choses. Et Jar, quand même 10 ans de plus que moi, et il se dit, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas rencontré ce double avant, parce qu'on aurait fait tellement de choses ensemble si on s'était connus avant les années 90. Voilà, il n'est pas au mieux. Et on part en vacances à l'étranger et il tombe dans une espèce de coma terrible, sauf qu'on est sur une île et que c'est loin, l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital... C'est terrible ce que je vois. Nous sommes dans une île grecque. Et j'ai fait du russe, beaucoup de russe. Donc j'arrive à lire cet alphabet. Et je me rends compte que la pièce où on me dit qu'il est, après que j'ai enregistré All in English, il y a marqué morgue. Et là je me dis, mais ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous. Je suis vivante. On s'est toujours dit qu'on mourrait ensemble. Ils sont complètement dingues, donc j'ouvre la porte et je vois Gérard. Je me mets à hurler, à courir dans les couloirs, à parler en anglais, à les obliger à le sortir de là, à les amener en réa, à faire ce qu'il fallait. Je me montre tellement persuasive qu'ils arrivent, ils prennent un brancard, ils partent à fond la caisse et Gérard se retrouve pendant 3 semaines en réa. Gérard est dans le coma et ils me disent on sait pas. J'y vais tous les jours, je suis quand même loin tous les jours, je prends un taxi, ça me prend des heures la journée, je m'en fous. Mais j'ai le droit de rester que 20 minutes avec lui. On est en réa. Et au bout de quelques jours, je vais voir le professeur et je lui dis, mais vous savez qui m'entend, quoi? Ben, on sait pas. Là. Je dis, ben attendez, vous savez pas, moi je vous le dis. Puisque chaque fois que je m'approche du lit, il bouge. Ils disent, non, il bouge pas. Je dis, il bouge pas avec vous, avec moi, il bouge. Donc cachez-vous, faites quelque chose, mais croyez-moi, regardez son encéphalo. Et le professeur accepte de jouer le jeu. Il me dit, on va vous faire venir en fin de journée, quand toutes les visites sont finies, on va vous laisser. Et nous, on va regarder avec les monitorings. Et je dis à Gérard, je suis là, alors arrête de faire l'imbécile. Montre-leur que t'es vivant et que tu vas t'en sortir. Et tous les monitorings se mettent à redonner signe de vie et l'encéphalo. Et là, le professeur ouvre la porte et il me dit « Vous avez totalement raison. Donc vous allez devenir beaucoup plus. On va le sortir de cette unité, on va le mettre quand même dans un endroit où il sera protégé au niveau aseptique, mais vous allez pouvoir le voir plus. » Et je suis allé le voir, sauf un jour, j'en pouvais plus, j'étais épuisé. Et au bout de 3 semaines, en pleine nuit, on me réveille à l'hôtel et on me dit « Faut que vous alliez à l'hôpital en urgence, vous vous doutez bien de l'état dans lequel j'étais. » De l'urgence. Et en fait, c'est parce que ça faisait une heure que Gérard hurlait « I want to see my wife ». Il avait capté qu'on n'était pas en France, que tout le monde parlait en anglais autour de son lit. Et en fait, il parlait en anglais parce que quand il comprenait, c'est au moment où j'étais là. Et donc, il se réveillait quand j'étais là. Et comme moi, je ne parlais pas grec, il me parlait en anglais. Et donc, il avait capté qu'on parlait en anglais. Donc je suis arrivé, ils n'en pouvaient plus. À peine je suis arrivé dans l'espace, il a immédiatement arrêté de hurler. Et il venait de désentuber. C'est un chanteur, je rappelle quand même. 3 semaines entubé, il pourrait se dire qu'il n'a plus de voix. Et il me regarde et il me dit « Ma princesse ». Et je lui dis « Gérard, putain, je leur ai dit tous les jours que tu étais là et... ». Et il me dit, mais bien sûr, j'étais là tous les jours, sauf toi. Je dis, pardon, pourquoi tu me dis ça? Et il me dit, texto, il y a un jour où t'es pas venu. Il est dans le coma. Il y a un seul jour où je ne viens pas. Il me dit, en se réveillant, pas toi, il y a un seul jour où t'es pas venu. Mais je me dis, mais c'est plus fort que tout, quoi. Ça se discute même pas. Mais Brigitte, t'es pas en train de rêver, vous étiez vraiment en osmose. Oui, on était en osmose totale, puisque même dans le coma, il a su le seul jour où je suis pas venue. Et voilà, et on est rentré à Paris, et il s'est battu, et il était prêt à remonter, on allait signer une tournée. Et voilà, et non. On était en train de bien avancer, on finissait son album Gérard Blanc Made in Paris, où il avait décidé de remettre tous les magnifiques titres qu'on avait refait avec ses musiciens pour l'Olympia l'année d'avant. C'était notre bébé, comme il disait, le plus beau. Et Gérard Blanc Made in Paris, et il me dit, je me sens pas très bien. Je lui dis, Gérard, faut que tu manges avant. Donc il se met à table avant de dormir. Je ne sais pas si je lui ai dit avant de dormir, je crois que je lui ai dit avant, comme si je le savais. Et je lui avais fait un pavé de thon, très beau, très simple. Et il me dit, j'ai l'impression de manger du carton. Je lui dis, bah, va te coucher. Et il est allé s'allonger, je me suis mis à côté de lui, il a mis sa tête sur mon épaule. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout dans la tristesse, mais là, ça me casse, quoi. J'ai vu dans ses yeux la façon dont il m'a regardé, qu'il était non pas terrorisé par la mort, qu'il était terrorisé de me laisser, terrorisé de m'abandonner, alors qu'on s'était toujours dit qu'on partirait ensemble. On avait mis tellement de temps à se retrouver, quoi. Et j'ai su qu'on avait mis du temps à se retrouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que quand on est allé au Père Lachaise, on attendait, c'était une crémation. J'attendais l'urne, les cendres. Quand tout d'un coup, il y a un grand black qui est arrivé, un musicien de La Réunion. Il s'est jeté sur moi et il m'a dit « Mais enfin, je comprends ce que je vivais avec Gérard dans les années 90. » Et il m'a dit « On faisait le clip ensemble de Tonton Bâton. » C'est un chorégraphe, grand chorégraphe qui a mis Tonton Bâton en clip. Et Gérard n'était pas spécialement un bon danseur. Et chaque fois qu'il se plantait, il me dit, il s'arrêtait, il regardait le ciel et il disait, Brigitte, aide-moi. Et il me dit, sa compagne s'appelait pas Brigitte à l'époque. Je disais, mais qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il appelle Brigitte? Et il me dit, c'était systématique, quoi. Ça a duré pendant tout le temps du tournage du clip. Dès qu'il se plantait, il faisait, Brigitte, aide-moi. Et... comme on habitait à côté, il dit, je suis allé dans sa maison. Et je lui disais, mais tu vis pas avec une Brigitte? Gérard répondait, non, pourquoi tu me dis ça? Comme s'il était même inconscient que déjà, le fait qu'il m'ait rencontré dans cette agence de presse fait que quand il était déjà dans le besoin d'une aide, il se retournait vers le ciel et il disait, Brigitte, aide-moi. Et... j'ai pris ça comme un cadeau, quoi. Je suis là en train d'attendre les cendres de Gérard. Ce mec traverse de La Réunion jusqu'au Père Lachaise pour me dire ça. Et là, je me dis, Gérard, aide-moi. J'ai rien d'autre à dire. Chez les Roms, on dit jamais je t'aime. Je crois qu'on s'est jamais dit je t'aime. On dit, je bois ton âme. En traduction, hein, je mange ton cœur. Moi, aujourd'hui, depuis bientôt 15 ans, je peux dire à tout autre être qui vient vers moi, où je pourrais avoir de l'attirance, qui a de l'attirance pour moi, puisque ces gens, ces personnes viennent vers moi et me le font comprendre, Gérard a mangé mon cœur et il a bu mon âme. Donc... c'est jusqu'au bout. Et le jour où je partirai, je sais que on se retrouvera ailleurs, je sais pas où. Constamment avec moi. Et j'en ai la preuve. Il y a eu des choses folles. Par exemple, je marchais dans la rue, des gens passaient à côté sans me bousculer et se retournaient en disant « Oh bah excusez-nous de vous avoir bousculé » et regardaient à côté de moi. Au début, je commençais à me dire « Je perds la tête. » J'allais faire les courses où on allait ensemble avant avec Gérard et à la caisse, sans que ça soit une caissière que je connaisse. La personne ne passe pas mes courses et je dis « Bah, qu'est-ce que vous faites? Attendez. » Et elle me dit « Bah, vous n'êtes pas avec le monsieur avec la moustache ?» Et je me retourne, je vois personne devant moi. Je dis « Bah, vous parlez de qui ?»« Bah, du monsieur qui était derrière vous. » Je dis « Non, non, je suis venue toute seule. »« Ah bon, excusez-moi, je vous ai vu avec. » Bon. Et puis, j'ai commencé à refaire des spectacles avec d'autres artistes. Et là, ça a été, j'ai envie de dire, un déferlement. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui parlent avec les absents. Parce que régulièrement, quand je suis à la régie, il y a des gens qui viennent me voir, particulièrement des femmes, une fois un homme, et qui viennent me dire « Il va bien, il était assis à côté de moi pendant le spectacle, il est très fier que vous continuiez à faire tourner le spectacle vivant. Il a adoré votre spectacle. » Il aime beaucoup l'artisan où vous vous occupez. Et certaines vont un peu plus loin en me disant « Vous êtes bien la femme de... » Je dis oui. Ben, il était là. Il est venu pendant le spectacle. Il était très content. Il vous remercie de continuer. Et là, je me dis quand même, c'est très très fort. Est-ce que j'aurais une preuve matérielle ? Au tout début de son absence, j'ai eu plein de preuves matérielles chez moi. Le studio qui s'est remis seul en route, la lumière qui s'allumait dans la chambre, l'eau qui coulait toute seule, la musique à fond la nuit, les portes qui se fermaient quand je voulais partir de l'appartement, comme si on m'enfermait dans notre appartement. Mais le plus fort, c'est parce que là, j'ai des témoins. Je suis en régie avec mes régisseurs, son et lumière, l'artiste dont je m'occupe sur scène, qui n'est pas chanteur mais humoriste. Et la maman prend des photos, puisque c'est la première fois qu'on fait une belle scène, un beau plateau. Et je la vois qui commence à hésiter à venir vers la régie. On fait une pause avec le régisseur et elle vient quasi tremblante et elle me dit « Est-ce que je peux te montrer quelque chose ?» Et elle me montre les photos et elle me dit « Regarde quand je vais prendre mon fils sur scène, tout est blanc. Tout est blanc, il n'est pas sur scène. Tout est blanc. » Je lui dis « T'as un problème avec ton téléphone, prends le mien. Ou prends celui de ton fils. » On recommence le plan lumière et je la vois qui filme et je la vois qui fait une photo. Elle me dit « Regarde !» Et elle me met le téléphone sous les yeux. Et sur le plateau, dans un costume noir, avec une chemise blanche, avec ses cheveux bouclés et une moustache, c'est Gérard et absolument pas mon humoriste. Et je me suis dit, ce que me disent les gens, les médiums qui sont dans la salle, en me disant « Il est content, il est fier, il aime cet humoriste. » Bah voilà, ça se traduit par ça. Il est carrément sur l'image. Heureusement, je pense que je ne serai pas là en train de vous parler à tous. Si d'un coup, je m'étais sentie toute seule. Parce que, en fait, ça aurait été comme si on s'était planté toute notre vie. Comme si on avait cru que. Mais là, je suis sûre que nous sommes des âmes sœurs. Je suis sûre que nous nous sommes trouvés. Et... on se retrouvera. Et aujourd'hui, il est là avec moi. Je fais plein de choses avec lui. Je suis très heureuse. Je lui avais promis de perdurer son répertoire. Aujourd'hui, quand j'ai encore vu cette année à Cannes tout le public se lever au moment où Gaëtan Roussel reprend sa chanson et venir chanter, alors qu'il respectait les autres génériques de films en écoutant un orchestre, là ils sont tous venus chanter. En bas du plateau, je me dis que tout ça, on le fait ensemble, parce que je serais pas là, ça se ferait pas. Il aurait pas été là, il aurait pas fait ce tube, ça se ferait pas non plus. Et c'est notre histoire.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.